Bonjour mesdames et messieurs. Donc dans le cadre des Lettres du Monde, la rencontre de ce matin chez Mollard est consacrée à Ricardo Menéndez Salmón, que nous remercions particulièrement d'être là, entouré du traducteur de son livre, de son dernier livre, Débâcle, et d'autres également, et de la traductrice qui va aider à cette rencontre, madame
Chapin,
excusez-moi. Et contrairement à ce qui est écrit dans le programme Lettres du Monde, ce n'est pas un libraire en ma personne, mais une amatrice de lecture qui est déjà intervenue quelquefois donc, à la demande de la librairie Mola, mais qui n'est pas du tout libraire ni professionnelle chez Mola. Et donc, avec cette rencontre, eh bien, certains connaissent déjà ce grand écrivain qu'est Ricardo Menéndez Salmón, qui a déjà derrière lui une œuvre bien connue dans le monde hispanophone, moins connue en France, malgré quelques traductions maintenant, mais qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une véritable rencontre, plus qu'une découverte, une rencontre. La rencontre avec un univers à la fois intellectuel et littéraire d'une très très grande puissance. Surtout aujourd'hui, surtout en novembre 2015. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai tout de suite pensé à Kafka, à une phrase de Kafka que je cite de mémoire, mais qui dit qu'un livre doit être un coup de poing qui nous fait bondir hors du rang des assassins, ou alors ça n'est pas la peine. Et je trouve que c'est ce qu'on éprouve quand on découvre donc Ricardo Menéndez Salmón. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec cette première réaction.
Buenos días, antes que nada, y gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado aquí en Burdeos. Bueno, me siento un poco abrumado por el hecho de que Sylvie haya asociado mi literatura a esta frase de Kafka, pero sí que, y aquí hablando desde el punto de vista del lector, ya no del autor, coincido con esta apreciación de Kafka, de este poder de la literatura de algún modo de quebrar, de romper ese hielo, ese mar interior helado que todos de algún modo llevamos dentro en nuestra cotidianidad, en nuestras rutinas. Y que a veces es, muy pocas veces realmente en la vida, es sacudido por un puñado de títulos que nos ponen cara a cara con la gran literatura, ¿no? Ojalá yo logre aproximarme a este empeño, a este propósito. Desde luego, tanto la literatura que a mí me gusta como lector, como aquella que pretendo generar como creador, es una literatura que se quiere incómoda, ¿verdad? Es una literatura que se quiere hostil a la complacencia, es una literatura que se quiere interrogativa, inquisitiva, que quiere sacudir esta conciencia un poco adormilada del individuo. Y en ese sentido creo que los libros que a mí me gusta leer y los libros que pienso que escribo, pues bueno, espero que tengan esta capacidad de conmoción, de perturbación, y una conmoción y una perturbación que espero que funcionen al menos en dos planos, ¿no? No solo en el plano emocional, sino también en el plano intelectual.
Bonjour et merci à vous tous d'être ici ce samedi matin. Je suis gênée et confuse que Sylvie ait associé ma littérature à cette phrase de Kafka. Et oui, c'est vrai qu'en tant que lecteur, depuis le point de vue d'un lecteur, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Le pouvoir de la littérature, effectivement, d'avoir ce pouvoir de la littérature de rompre, de briser cette glace qu'on a à l'intérieur, qui existe dans notre routine. Et c'est vrai que peu de fois, des titres chapitres des romans peuvent, de la littérature peuvent nous remuer à ce point. Et j'espère effectivement, j'aimerais pouvoir m'approcher de cette volonté, de ce besoin et d'atteindre en fait ce but de remuer les gens. La littérature que j'aime en tant que lecteur, mais aussi celle que j'essaye d'écrire en tant que créateur, se veut inconfortable, incommode, hostile à la complaisance, interrogative, inquisitrice. Et c'est vrai que, de façon à ce qu'elle puisse vraiment remuer cette conscience endormie que peut avoir l'individu. Et les livres que j'aime et que j'écris en tant que créateur doivent avoir la capacité de perturber, de créer une commotion chez le lecteur. Et ça marche sur deux plans, en tout cas, sur le plan émotionnel, mais aussi intellectuel.
Oui, alors il faut peut-être compléter le portrait de l'auteur en quelques mots pour ceux peut-être qui ne le connaissaient pas auparavant et dont je fais partie d'ailleurs. Ricardo Menéndez Salmón est un jeune auteur, vous l'avez devant vous, donc vous voyez, vous avez une idée de son âge, ce qui contraste fortement avec la puissance de son œuvre et déjà aussi avec l'ampleur de son œuvre écrite. Il y a donc une trilogie, comme vous l'indique, une quatrième de couverture d'un de ses ouvrages, la trilogie du mal, qu'il a abordé donc à la fois d'un point de vue romanesque et d'un point de vue, non pas d'un essayiste, mais d'un point de vue philosophique. Et ce n'est pas par hasard, peut-être qu'on peut poser la question, je demande, de la relation entre sa licence de philosophie et sa vocation romanesque, on peut dire, romans et nouvelles, donc, qui sont déjà publiés depuis longtemps.
Sí, en efecto, yo... Digamos que mi formación académica, mis primeros años de madurez, yo estudié filosofía y entiendo que la filosofía me ha dotado de una serie, sobre todo, de temas, ¿verdad? Una serie de grandes preguntas que son las que de algún modo articulan todo el discurso de nuestra tradición cultural desde los griegos hasta hoy. Lo que sucede es que... todas estas preguntas entiendo que, sobre todo a raíz de un momento histórico que coincide seguramente en mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, con la desaparición de los grandes sistemas filosóficos, ¿no? Digamos un poco la filosofía después de Hegel. Yo creo que las grandes preguntas de la filosofía desde entonces encuentran su lugar de privilegio, encuentran su lugar central de discusión en la gran narrativa, ¿no? Yo creo que la gran literatura decimonónica, la gran literatura rusa, la gran literatura francesa, la gran literatura italiana, o la gran literatura española, o norteamericana, por supuesto, de finales del XIX y, por supuesto, toda la narrativa del XX, ya desde las primeras décadas vanguardistas hasta la literatura de entreguerras y toda la literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial, es una literatura de ideas, es una literatura eminentemente filosófica, es una literatura donde las grandes preguntas del pensamiento encuentran su encarnadura, ¿no? Camus decía en El hombre rebelde que realmente la gran tradición novelística de Occidente había sido construida por novelistas filósofos, ¿no? Él hablaba en primer lugar de Melville como la primera figura que él colocaría en este panteón a través de Moby Dick, y bueno, iba recorriendo las distintas escalas de este viaje, siempre comparada en estos grandes nombres de la literatura. Sinceramente creo que aún hoy la novela, obviamente la novela contemporánea tiene poco que ver con esta novela canónica de finales del XIX, pero la novela creo que sigue siendo un extraordinario recipiente y un extraordinario instrumento para lanzar al mundo todas estas grandes preguntas que estaban disueltas o que estaban propuestas hace siglo y medio, dos siglos, en las propuestas de los filósofos, ¿no?
En effet, ma formation universitaire et donc mes premières années de maturité, c'était lors de mes études de philosophie. Ces études-là m'ont permis d'aborder, de traiter des thèmes, des grandes questions qui sont celles qui articulent en réalité le discours culturel de notre tradition culturelle depuis les Grecs. Toutes ces questions sont à la base d'événements historiques et finalement depuis la moitié et la fin du 19e siècle, après la disparition des grands philosophes, après Hegel. Ces questions, finalement, se retrouvent dans des lieux de discussion qui sont très intéressants, qui sont la fiction. On peut retrouver ça à la fin du 19e et dans le 20e siècle, littérature russe, italienne, française, même nord-américaine. Toute une décennie, puis plusieurs décennies plus tard, au 20e siècle, entre les guerres, après la guerre mondiale, toute cette littérature des idées philosophiques avec des grands personnages, des grandes figures. D'ailleurs, comme on a parlé de cette grande tradition, en évoquant des grands romanciers philosophes, en plaçant dans son panthéon notamment Melville avec Moby Dick. Effectivement, il a fait tout un voyage à travers ces grands noms de la littérature. Alors, c'est vrai que le roman contemporain n'a rien à voir avec le roman du 19e siècle, mais le roman reste un lieu important pour évoquer toutes ces grandes questions qui ont été proposées depuis un siècle, depuis un siècle et demi, ces propositions philosophiques qui apparaissent, et c'est intéressant de le discuter dans la fiction.
Donc, vous êtes donc ce romancier, auteur de la trilogie du mal, de l'offense, du correcteur, de la philosophie en hiver, de La lumière est plus ancienne que l'amour, de Médusa. Voilà les titres qui, avant la débâcle, donc, sont parus en France. Vous êtes également critique littéraire, vous êtes également auteur de livres de voyage. Et tout cela, en plus de votre formation philosophique, en plus de votre goût certainement pour la littérature tel que vous venez déjà d'en témoigner, vous donne une espèce d'ouverture à la fois au monde réel et au monde de l'imagination à travers le monde des pensées, le monde des idées, qui, je pense, est frappante dès les premières pages de la débâcle. C'est-à-dire que, paradoxalement, vous lire invite à lever la tête. Et en même temps, on est pris dans le fil narratif. On lève la tête pour réfléchir parce qu'il y a des phrases extrêmement fulgurantes intellectuellement qui font réfléchir, qui nous font nous arrêter dans la lecture. Et en même temps, on est happé par la suite du texte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très original. Est-ce que vous l'avez recherché ? On entre un petit peu là dans l'atelier de l'écrivain, mais est-ce que cet effet sur le lecteur, qui est vraiment très original et très puissant, a été mis en œuvre volontairement, on pourrait dire, enfin, en tout cas, est-ce que vous en avez eu conscience lorsque vous avez construit cette écriture ?
Yo soy un escritor que le da tanta importancia a qué se narra, a qué se cuenta, es decir, a cuáles son las ideas que articulan un relato, que alimentan un relato, cuanto al hecho de cómo se cuenta, cómo se narra. Es decir, para mí es tan importante el tema como su plasmación. De modo que mi modo de trabajar o lo que me interesa en mi tarea como escritor es no perder nunca de vista estos dos campos. Es decir, debo utilizar la literatura para expresar del modo más profundo posible un ideario, una mirada sobre el mundo, una cosmovisión, si se quiere, pero creo que debo hacerlo con una herramienta expresiva que al mismo tiempo también que nunca deje indiferente al lector, ¿no? Es decir, insisto un poco en lo que dije al principio, atrapar al seducir al lector, atrapar al lector en este doble plano, ¿no? En el plano que atiende al mundo de las ideas, por un lado, pero también al mundo de la expresión, el modo en que estas ideas se expresan, ¿no? Yo creo que uno de los motivos centrales de mi literatura es reflexionar sobre si es posible narrar el horror, ¿no? Es decir, siempre me ha interesado mucho los límites del lenguaje literario. ¿Qué es posible decir? ¿Qué no es posible decir? ¿Cómo nombrar el horror, ¿no? Y una de las preguntas ligadas a esta pregunta es si es posible la paradoja de crear belleza desde el horror, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Si es posible narrar el mal, narrar el dolor, narrar la pérdida, narrar el fracaso, sin por ello renunciar a que el elemento expresivo mediante el que esto se narra sea un elemento de una belleza, digamos, tanto formal como expresiva.
Personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt sur les idées qui doivent nourrir un récit et comment, sur que raconter, quelles idées raconter, mais aussi comment les raconter. Donc pour moi, les thèmes sont aussi importants que finalement la façon de le faire. Et mon mode de travail en tant qu'écrivain, c'est de ne jamais perdre de vue cela. Pour moi, la littérature, c'est d'essayer d'exprimer de la façon la plus précise une certaine cosmovision, un point de vue du monde avec un outil le plus expressif possible, toujours dans le but d'attraper, de séduire le lecteur sur deux plans, et j'insiste là-dessus, sur le plan des idées, mais aussi sur le plan de l'expression et de la façon donc d'exprimer ces idées. L'une des idées centrales pour moi, c'est vraiment de réfléchir sur la possibilité de narrer, de raconter l'horreur. J'ai toujours été intéressée par les limites du langage, c'est-à-dire ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'il est possible de nommer, comment nommer l'horreur. Et avec ce paradoxe difficile de raconter l'horreur à travers un instrument, un outil beau. Donc comment raconter le mal, l'horreur, l'échec, la douleur, sans renoncer pour cela à une certaine beauté, qu'elle soit formelle ou expressive.
Oui, on est vraiment au cœur de votre thématique et ce cœur, on le vit à la lecture. C'est-à-dire que ce problème des relations entre l'art et le mal, on le vit à chaque page en lisant, dans la mesure où on se sent à la fois voyeur de quelque chose de repoussant et en même temps admirateur de la beauté de ce qu'on lit. Et donc, on est à la fois dans un bonheur et dans un malaise qui est signe le grand écrivain, encore une fois, et c'est pour ça qu'on pense à Kafka d'emblée.
Non, mais... Quizás un inciso. Yo creo que abundando en esta problemática de la pregunta por el mal, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos tenemos la experiencia de que el terror, el horror provoca en nosotros un doble movimiento, ¿no? El más inmediato, quizás el más intuitivo, sea un movimiento de repulsa, un movimiento de alejamiento, ¿verdad? Un movimiento de, en fin, de poner una barrera. Pero al mismo tiempo no podemos negar que hay un elemento fascinador casi siempre en estos episodios. Hay algo que quizás, porque nos está hablando de nuestra propia condición, aunque no queramos muchas veces aceptarlo, nos invita a acercarnos a estos fenómenos, seguramente también para escrutar, para intentar escrutar, para intentar discriminar, para intentar comprender sus razones. Esto se ve, bueno, de un modo muy prosaico, de un modo muy banal en el cine de terror, ¿no? Incluso en el cine de terror más flojo, más intrascendente. Obviamente, la pregunta es ¿cuáles son los riesgos de esta fascinación por la oscuridad, ¿no? ¿Dónde debemos poner los límites, tanto en el lenguaje como, por supuesto, en nuestra actitud ante esta serie de hechos, ¿no? Este es un elemento que también creo que está muy, muy presente en mis novelas, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo he escrito dos novelas en las que aparece el tema del nazismo. La primera, las dos están traducidas al francés. La primera es La ofensa, que cuenta la historia, grosso modo, de un hombre, de un soldado alemán, que ante el horror del mundo, ante un hecho terrible, de algún modo decide cancelar sus vínculos con el mundo. Por decirlo de alguna manera, decide dejar de mirar, aparta la vista. ¿Qué figura literaria busqué yo para contar esto? Se me ocurrió la idea de que este hombre perdiera la sensibilidad. Un hombre que, enfrentado al horror del mundo, pierde la sensibilidad y, de algún modo, decide romper todo vínculo con el mundo. Años después, escribí otra novela ambientada en la Alemania nacionalsocialista, que se titula Medusa, que está traducida por Jean-Marie, es la primera colaboración entre Jean-Marie y yo, donde, de nuevo, el protagonista se enfrenta al horror de la guerra, al horror de los campos, al horror de las masacres, pero lo que decide es mirar hasta el final, es no apartar nunca la mirada, es convertir el horror en, decirlo de alguna manera, su alimento espiritual, porque él es un artista, entre comillas. Entonces, yo creo que en estos dos personajes, de algún modo, son la cara y la cruz de una moneda, de una reflexión sobre este movimiento de repulsión, fascinación, que el horror provoca en nosotros, ¿no? Lo siento.
Alors peut-être ici j'aimerais ajouter une incise. Je crois que pour abonder dans le sens de cette problématique du mal, je voulais donner quelques exemples. On a tous des expériences justement face à la terreur, à l'horreur, qui en fait provoquent chez nous un double mouvement. Tout d'abord de répulsion, d'éloignement, on met une barrière, mais on ne peut pas nier la fascination que ces épisodes provoquent en nous, car finalement, cela nous parle de notre propre condition et on cherche à se rapprocher quelque part pour scruter, pour comprendre mieux cette terreur. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs d'une façon tout à fait banale dans le cinéma d'horreur, de terreur. La question est évidemment: quel risque peut provoquer cette fascination pour l'obscurité et quelles sont les limites face à tous ces faits-là? Et ce sont des éléments, effectivement, qui posent question dans mes romans et qui composent mes romans. Je voulais donner comme exemple deux romans que j'ai écrits sur le thème du nazisme. Les deux ont été traduits ici en France. Tout d'abord, L'Offense, où le protagoniste est un homme, un soldat allemand, qui, face à l'horreur du monde et aux faits terribles qu'il a pu vivre, décide d'annuler, de supprimer ses liens avec le monde et décide d'arrêter de regarder le monde. Et par quelle figure littéraire j'ai essayé de transmettre cela? Par sa perte de sensibilité. Donc c'est ainsi qu'il décide de couper ses liens avec le monde. Dans un autre roman également qui s'appelle Médusa, qui a été traduit par Jean-Marie Saint-Luc, qui est ici, et qui scelle la première collaboration entre nous, le protagoniste affronte énormément d'horreurs, les camps, les massacres, et décide en fait au contraire de regarder tout cela. Cet homme qui est une espèce d'artiste en fait de l'horreur son aliment spirituel. Et ces deux personnages finalement ce sont les deux faces d'une pièce de monnaie, et c'est ce mouvement de fascination, répulsion que nous avons face à l'horreur.
Alors, il faut vraiment que les lecteurs francophones remercient les éditions Actes Sud pour l'offense. Et la traductrice, je crois que c'était une traductrice pour l'offense. Et bien sûr, la maison Jacqueline Chambon pour les romans suivants. Et le traducteur donc, qui est aujourd'hui avec nous et à qui nous pouvons aussi demander comment il a pu se débrouiller pour rendre cette beauté de l'écriture qui fait le pendant justement de cette fascination, répulsion qui est au cœur de l'œuvre et de l'intérêt de l'œuvre de Ricardo Méndez Salmón.
Vaste question. Le premier contact avec les livres de Ricardo, évidemment, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que ce sont des romans d'idées. Et Dieu merci, moi je n'ai pas de formation philosophique à part une terminale philo comme tout le monde et un peu plus après, mais enfin bon, rien de très important. Et Dieu merci, la philosophie ça passe forcément par des mots, donc ça rejoint très vite le moule de la littérature et donc le problème des idées, c'est pas Kant ni Hegel ce qu'il écrit, hein, faut bien dire, parce qu'il faut pas non plus faire peur au lecteur, ce n'est pas du tout de la philosophie pure et dure et développée, c'est vraiment le choix de la littérature qu'il a fait pour exprimer justement, comme il vient de le dire, toutes ces préoccupations ontologiques. Hein. Et alors, bon, c'est vrai que c'est ce qui frappe aussi, d'abord c'est la brièveté de ses livres, qui pour moi est une qualité parce qu'il y a une telle inflation de gros romans en ce moment, partout, je trouve, qui se fait, c'est une idée personnelle, au détriment bien souvent de la force, de la densité du livre. Et il sait écrire bref et fort. Et ça, c'est vrai que, comme il disait tout à l'heure, lorsqu'il recherche à atteindre le but de percuter, de provoquer, comme disait Castaing, un coup de poing, on le ressent, ce coup de poing, dans la figure, quand on lit ce livre. Surtout qu'il il mêle, ça c'est très curieux d'ailleurs, il mêle l'affect à l'intellect. Hein, c'est-à-dire qu'il nous touche par des choses qui nous touchent tous très profondément, en particulier dans... le prochain livre qui va paraître au mois de février, il y a le problème de la perte d'un enfant et c'est absolument atroce, pas raconté pour elle-même mais pour tout ce que ça développe justement sur la relation à l'autre, etc. Et de ce point de vue d'ailleurs j'ai été frappé une fois de plus de constater qu'en France, en français il y a, dans d'autres langues aussi, il y a un mot qui n'existe pas, qu'il y a un creux, un vide abominable, c'est qu'il n'y a pas de mot pour désigner le parent qui a perdu un enfant. Il se trouve qu'en espagnol non plus, sauf en espagnol très classique, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols d'aujourd'hui qui le savent, où effectivement il y a eu une époque où, comme dans le mot et dans l'étymologie grecque, le mot pouvait aussi désigner, d'orphelin, pouvait aussi désigner le parent qui a perdu un enfant. Et j'ai trouvé ça, c'était extrêmement fort, parce qu'il nous... C'est la façon, comme il l'a dit tout à l'heure, de saisir le lecteur et de ne pas le lâcher. Le deuxième point, à part ce qui touche donc au fond de ce qu'il raconte, c'est la qualité de l'écriture, évidemment. Parce que moi, je le dis chaque fois que j'en ai l'occasion, surtout en vieillissant, en prenant de la bouteille en tant que traducteur, moi, je me rends compte de plus en plus que la chose la plus importante, c'est la langue, bien entendu. Hein, parce que tous les romanciers écrivent des choses intéressantes, hein, mais ils se distinguent tous par la langue. Et moi, il y a longtemps que j'ai découvert... Bon, j'ai inventé l'eau tiède, en fait, hein, mais que le seul organe, l'organe principal pour traduire, c'est l'oreille. C'est l'oreille et qu'il faut traduire la musique de ce qu'on lit. Et c'est ce qui est le plus difficile, surtout entre deux langues qui apparemment sont manifestement très voisines, mais qui, du point de vue de la musique, sont extrêmement différentes. Parce que l'espagnol est une langue très rythmée, très articulée, très tonique, ce que n'est pas du tout le français. Donc il faut se débrouiller pour rendre ce qu'on entend à la lecture, pour le rendre en français. Bon, il y a des tas de petits trucs qu'on acquiert petit à petit en travaillant. Mais c'est cette conjonction donc d'un fond apparemment qui provoque l'horreur, mais qui est adouci par justement la douceur de la musique. Moi, je traduis toujours en écoutant de la musique, et c'est très curieux parce que en traduisant ses livres, j'écoutais du Schubert, et lui, il m'a dit que c'était son musicien préféré. Voilà, si j'ai répondu.
à fait. Il y a une connexion, sans doute. Enfin, évidemment, quand on est seulement un lecteur français et francophone, on ne peut pas comparer l'original et la traduction. Mais à travers la traduction que vous donnez, Jean-Marie Saint-Luc, vous réussissez, encore une fois, à rendre... à la fois cette beauté qui nous porte, ce bonheur d'écriture. Mais si, je vous assure, je parle sans aucun... Enfin, je veux dire, je viens de découvrir cet auteur, je viens de découvrir ses romans avec le plus grand bonheur, tout en étant extrêmement commotionné, pour reprendre le mot espagnol, par le choc de la substance même, de l'épaisseur, de la profondeur de ce livre. Et je voudrais juste lire un exemple pour montrer justement à la fois le bonheur d'écriture, le bonheur de traduction et, comment dire, la pertinence du livre lui-même, notamment la débâcle, dans le contexte d'aujourd'hui, en novembre 2015. C'est juste un petit passage, parce qu'il s'agit de terroristes, mais je ne veux pas du tout raconter l'histoire. Vous la découvrirez, elle est absolument passionnante, fulgurante. Mais voilà, à la page, par exemple, 88, « Se découvrir à la télévision leur procura une nouvelle perspective de l'affaire. » Le simulacre de simulacre, l'écran à plasma, les catapultait dans l'hyper-réalité. Rien d'aussi contagieux qu'une image, rien d'aussi sûr pour se savoir vivant que de se transformer en hologramme, rien d'aussi indestructible que la chair faite photon. Ils durent s'enivrer suffisamment pour supporter un tel degré de pureté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cette brièveté des phrases, cette force des mots, cette précision de la langue, voilà, c'est éblouissant. Est-ce que vous voulez qu'il lise en espagnol ? Oui, bien sûr, lisez-le en espagnol si vous voulez bien.
Vous vous êtes arrêté où ? À pureté ?
Oui.
Sí, en espagnol, diría así. Descubrirse en televisión les proporcionó una nueva perspectiva del asunto. El simulacro de simulacros, la pantalla de plasma, los catapultaba a la hiperrealidad. Nada tan contagioso como una imagen. Nada tan certero para saberse vivo como convertirse en holograma. Nada tan indestructible como la carne hecha fotones. Tuvieron que emborracharse bastante para soportar semejante grado de pureza.
Il y a plus de musique en espagnol, c'est évident.
Merci beaucoup. Ce qui est aussi époustouflant, c'est votre imagination. Parce que quelquefois, les études de philosophie assèchent l'imagination. On est dans l'abstraction. Et même si l'un des personnages parle de Hobbes, à un moment, il dit qu'à toute naissance d'un être humain, c'est une double naissance, l'être humain et sa peur.
Sí, efectivamente, me gustaría incidir en algo que ha dicho Jean-Marie, porque a veces, obviamente, corremos el riesgo de espantar al lector si acentuamos demasiado la idea de que la filosofía pesa mucho en mis libros. Yo, de hecho, en España arrastro la... ¿Cómo es del San Benito? Arrastro el San Benito de ser un escritor difícil, de ser un escritor complejo, de ser un escritor un tanto oscuro, porque mis libros obligan a pensar demasiado, ¿no? No, lo que quiero decir, recogiendo la palabra imaginación que Silvi ponía encima de la mesa, que obviamente, aunque en mis libros haya un interés por hacer una literatura de ideas, al final, obviamente, de lo que estamos hablando es de la fuerza creadora de la imaginación literaria, ¿no? Sin eso, no somos nada. De hecho, mis libros serían extraordinariamente áridos y extraordinariamente pesados, porque si uno se dedica a lanzar parrafadas filosóficas en un libro, una detrás de otra, lo único que logrará seguramente será espantar al lector y aburrirlo soberanamente, ¿no? Todo este mundo debe encarnarse a través de la imaginación creadora, a través de la fuerza de la ficción, en personajes, en situaciones, en un clima que permita disfrutar al lector desde la pura libertad que otorga la novelística, ¿no? Nos ha otorgado siempre y que espero que nos otorgará durante mucho tiempo. Lo que sucede es que efectivamente, a mí me gusta pensar en mi literatura como un... Yo he utilizado alguna vez la expresión de que mis libros son centauros. Centauros en el sentido de que son novelas que pueden tener cuerpo de ficción y pueden tener cabeza de ensayo o al revés. Es decir, son artefactos narrativos que beben de muchos tipos de discursos, no solo se alimentan de la idea canónica y de la idea clásica de la ficción, sino que están interesados en el discurso ensayístico, en el discurso de la poesía, en la prosa histórica, en la subjetividad más pura. Me gusta pensar en mi literatura como una literatura mestiza en este sentido, ¿no? Como una literatura híbrida que de algún modo dinamita y dinamiza los géneros literarios tal y como hasta épocas recientes se han conocido.
Alors en effet, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie, parce que je ne veux pas qu'on fasse peur au lecteur et qu'on le fasse fuir en parlant de philosophie dans mes livres. Et c'est vrai qu'en Espagne, je traîne cette image d'écrivain difficile à lire, qui écrit des livres extrêmement difficiles à comprendre, etc. Mais c'est vrai que, comme Sylvie l'a dit, pour moi, le mot imagination est vraiment le maître mot. Même s'il s'agit d'une littérature des idées, je veux qu'on parle plus de la force de création, et sinon les livres avec des paragraphes entiers de phrases philosophiques ne feraient qu'ennuyer finalement le lecteur. Et donc le monde en fait doit s'incarner grâce à la force de fiction dans les personnages, des situations, des climats, pour que le lecteur puisse profiter de la fiction depuis la liberté que nous donne justement l'écriture et le roman de fiction. Ma littérature, en réalité, quand j'y pense, et je pense que c'est ce que je veux faire, ce que je veux montrer, c'est que mes livres sont en réalité des centaures, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un corps fictionnel, un corps qui serait la fiction, et la tête, par exemple, ça serait de l'essai, ou l'inverse, par exemple. Ce sont finalement des artefacts narratifs qui s'alimentent de tout, des discours poétiques, de la prose historique, de la subjectivité la plus pure. Moi, je pense à ma littérature comme une littérature hybride, métisse, qui dynamite et dynamise les genres littéraires.
Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur votre ouverture, l'ouverture de votre univers que l'on retrouve quand on vous lit. Et je voulais aussi évoquer avec vous une question qui est celle de l'imagination cinématographique, parce que à la lecture, on a vraiment l'impression, notamment le montage cut, la multiplicité des fils narratifs. Moi, ça m'a fait penser à Ignacio Erati, par exemple, à Babel, à 21 grammes. Voilà. Est-ce que cet aspect de votre imagination visuelle, cinématographique, dans la construction aussi, mais dans les motifs, fait écho à ce que vous faites, ou est-ce que ça vous parle?
El cine, por una cuestión de biografía. He nacido en el año 71, luego he crecido, me he alimentado, he vivido una cultura que no puede escapar de la narrativa fílmica, ¿no? El cine ha sido muy importante para mí durante muchos años, aunque no me reconozco en los modelos que Silvi ha insinuado. Yo amo mucho, por ejemplo, el cine de... En esta novela aparece mencionado un cineasta para mí decisivo, que creo que en su terreno sería un ejemplo de lo que yo busco alcanzar en la literatura, es decir, esta unión entre intelecto y expresividad. Obviamente él también lo ha hecho de un modo mucho más decisivo que yo, es la figura de Bergman, ¿no? El cine de Bergman, de Ingmar Bergman, que aparece en Derrumbe, me parecería un modelo extraordinario de copiar, ¿no? De intentar lograr en mis libros algo de lo que él consiguió en su cine. A mí me interesa mucho... Me ha interesado mucho, sobre todo en su momento, el cine soviético, por su idea del montaje, ¿no? Esta idea del cine dialéctico, de cómo la confrontación entre dos imágenes puede hacer nacer una tercera, cómo la asociación entre elementos aparentemente dispares puede generar un sentido nuevo. Y me han interesado siempre una serie de directores un tanto alejados de eso que podríamos llamar el mainstream, ¿no? Quizás el gran artista del siglo XX, para mí, al que yo considero un artista global, artista que prácticamente tocó todos los espacios de representación que a mí me fascinan, es Andrei Tarkovsky, ¿no? Para mí el cine de Tarkovsky es quizás la suma de todo aquello a lo que un artista puede aspirar en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Creo que en su cine está la pintura, está la música, está la narrativa, está el mundo de los sueños, está la capacidad de moverse, de generar mundos herméticos donde las claves de interpretación se nos escapan muchas veces, pero al mismo tiempo la seducción es absoluta, ¿no? En ese sentido, yo buscaría mis referentes más por ahí, esos nombres que he citado.
Alors, le cinéma, tout d'abord, pour une raison tout à fait biographique, je suis née en 71, j'ai grandi vraiment dans une culture qui ne peut pas échapper au récit cinématographique en général. Le cinéma, effectivement, est très important, mais je ne me reconnais pas dans les modèles que Sylvie a cités tout à l'heure. J'aime certains types de cinéma, et d'ailleurs, je cite dans Débâcle un cinéaste qui a été vraiment décisif pour moi, qui est vraiment l'exemple de ce que je recherche dans ma littérature, la confrontation entre intellect et expressivité, et ça, il l'a obtenu, et c'est Ingmar Bergman. C'est un modèle extraordinaire que j'aimerais imiter et obtenir réellement ce qu'il obtient dans ses films à travers mes livres. Par ailleurs, j'ai un certain intérêt, je suis très intéressée par le cinéma soviétique pour leur idée du montage en réalité, ce cinéma dialectique qui confronte deux idées pour en faire naître une troisième nouvelle. Et c'est vrai que je m'intéresse plutôt à des réalisateurs qui sont à l'extérieur en fait du mainstream et pour moi il existe un artiste global qui a vraiment touché et qui est rentré dans tous les espaces qui me semblent importants, qui est Tarkovsky, qui est vraiment pour moi la somme qui représente la totalité de tout ce à quoi un artiste peut aspirer. Donc il a touché à la peinture, c'est tout pintura, non? Au récit, à la monde des rêves, la littérature, la capacité au monde des rêves, capacité à générer des mondes hermétiques tout en restant toujours dans cette recherche de la séduction absolue. Et ça, ce sont plutôt mes références à moi.
Merci beaucoup. Merci Ricardo Menéndez-Salmon. Merci à son traducteur, donc Jean-Marie Saint-Lu. Merci à son interprète, Madame Chapin.